France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu fais dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire.
Une femme emportée par la force du collectif, une autre inadaptée au diktat et à la norme, deux héroïnes de notre temps, entre fin du mois et fin du monde. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Peut-on continuer à s'aimer quand on ne partage plus les mêmes croyances en l'avenir? C'est la question au cœur de ce film Les Braises. Le vôtre, bonjour Thomas Kruithof.
Bonjour Christine.
Un couple dans la tourmente face à la découverte de l'engagement, celui des Gilets jaunes avec Virginie Efira et Harry Warthalter. Les Braises à l'affiche depuis mercredi. Pour que je fasse de la promo, dit-elle, il faut vraiment que l'expérience de tournage ait été particulièrement forte. Alors, heureusement pour nous, bonjour Blanche Gardin.
Bonjour.
Colline, exploratrice du pôle Nord, dans ce film L'incroyable femme des neiges, de Sébastien Bette-Bédé, un rôle à votre démesure, une femme en quête d'absolu et peut-être bien le rôle de votre vie. « So far », comme disent les Anglais, l'incroyable femme des neiges, sur nos écrans depuis mercredi prochain. Enfin, les sorties de cette semaine, entre une vague et deux procureurs, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bon, et tu viens avec moi, alors ?
Où ça ?
À la manif du 17.
Ah !
Ah ouais, de ouf, bien sûr que je viens.
Non, mais sérieux, on l'a jamais fait, ça, ensemble.
Non, on l'a pas fait, ça.
Bah alors, on le fait. Tu vas me dire que ça sert à rien ?
Bah ouais.
Non mais je sais pas, tu... Les aliens pourraient débarquer, tu resterais dans ton camion à regarder le paysage, toi.
Bah si les aliens débarquent, faudra bien continuer à faire tourner ce qui reste du pays, ils auront besoin d'un chauffeur, voilà, ce sera moi.
Non franchement, Jimmy, wow, ça déconne trop là. Faut qu'il y ait du monde à la manif, gueuler sur Facebook, ça suffit pas. Et puis tu vois, si les gens qui pensent comme moi, ils vont pas, bah y aura personne.
Karine et Jimmy, Virginie Efira et Harry Warthalter, un couple uni depuis 20 ans, de vie commune et deux enfants. Elle travaille en usine, lui est chauffeur routier quand surgissent effectivement les gilets jaunes, les braises, Thomas Kruithof, ou la politique au sein du couple, l'intime dans le collectif. Mais avant d'aborder l'intime, le collectif racontait une population de différents horizons et eux qui ont vécu en fait un apprentissage militant en super accéléré.
Complètement, ouais, ouais. Et c'est un peu ce que vit le personnage de Virginie. C'est un mouvement dans le mouvement des Gilets jaunes qui a initié beaucoup de gens à la politique. Et c'est vrai, quand on a commencé à écrire ce film avec mon camarade scénariste Jean-Baptiste Delafont, voilà, ça a commencé par des rencontres de Gilets jaunes en Bretagne et puis en Haute-Loire. Et c'est vrai qu'il y avait voilà, des femmes notamment qui nous racontaient cette expérience accélérée de la découverte du collectif, de la découverte de l'engagement collectif, de se structurer ensemble, de construire un espoir et puis aussi des difficultés, de la dureté de cet engagement, de ce combat. Quoi, de
il le raconte politique. Comme une guerre un peu.
Bah, il y a des moments où il le raconte un petit peu comme ça, mais il le raconte aussi comme une découverte de liens, de sensations, de fraternité, et aussi comme une émancipation intellectuelle, quoi, quelque chose qui bouscule un peu les certitudes et nous fait voir le monde d'une manière différente, quoi. Donc il y avait quelque chose dans ces expériences qui était touchant.
Avec beaucoup de nostalgie aussi.
Il y a souvent la nostalgie de ces premiers moments, de ce début de novembre 2018, de ce mouvement un peu sidérant par son ampleur immédiate et qui a surpris tous ses participants, voilà, qui étaient venus comme ça un samedi de novembre 2018 pour protester contre la hausse du gasoil. Et ces gens se réunissent, se découvrent des liens et essaient de construire quelque chose ensemble. Oui, il y a en tout cas chez beaucoup la nostalgie de ce début, de cette initiative.
Vous leur offrez le scope, c'est un grand et un beau luxe, et vous faites donc revivre ces braises, ces feux, etc. Comment ils l'ont vécu, ça ? Parce que certains des Gilets jaunes ont été dans votre film.
Oui, tout à fait.
Ils ont refait l'histoire, quoi.
Non, non, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait ça. Et ils ont participé au film à Angoulême et à Limoges. Et ils ont joué des rôles. On essayait de capter un petit peu l'énergie du collectif, l'énergie un peu démocratique qu'il y avait dans le mouvement. Et donc, il y avait parfois le plaisir, la joie de revivre des moments heureux qu'ils avaient vécu. Et puis, ils étaient attachés à ce que le film ait une couleur réaliste. Et puis, assez vite... Ils repensaient à leur engagement, mais ils vivaient un tournage, et un tournage, c'est une expérience collective, et ils ont le sens du collectif.
Oui.
Donc voilà, il y avait un peu une sauce qui a pris entre les acteurs professionnels et les acteurs amateurs.
Notamment comme Virginie Efira, cette femme Karine ouvrière qui n'hésite pas, je le disais, à l'ouvrir pas mal devant les patrons. Elle me fait penser à une autre héroïne de cinéma qui s'appelait Norma Rae.
Oui,
dans le film de Martin Reed.
Avec Sally Field.
Oui,
tout à fait.
Et cette scène où elle monte sur la table, cette scène de découverte. En fait, quelle émulation extraordinaire pour elle. Tout d'un coup, ce qu'elle disait, elle, en petite voix dans l'usine, elle va pouvoir le crier sur des ronds-points.
Oui, il y a ça. Je sais pas si elle est prête, si elle se dit ça tout de suite. C'est quelque chose qu'elle découvre et qui crée un souffle en elle. Et je veux dire qui la transcende.
On va l'entendre face à la police.
Obéissance à la loi. Dispersez-vous.
On informe les gens, monsieur.
Pardon, mais là, c'est vous qui bloquez, là.
Vous avez lu notre acte? On est tranquille depuis ce matin, là.
Ne vous bloquez pas.
Sinon, mais il y en a qui sont beaux, là.
Vraiment bon enfant.
Et ça vous tient chaud, votre truc, là?
Je t'ai pas porté comme ça, là.
Je sais que j'ai rien vu venir, moi. Les CRS, ils ont changé par rapport à avant.
Ah oui.
J'avais un nom qui était CRS, et moi, je peux dire que c'était pas le même délire.
Non,
ils ont l'air sympas, accueillants, pas mal, avec le petit tatouage qui va bien. C'est quoi, c'est un dragon ou... On peut savoir? On peut voir? Non?
C'est vrai?
Imperturbable. Sexy cop. Sexy cop, c'est son nom sur Insta.
Tu crois? Voilà, regarde.
Deuxième sommation. Nous allons faire usage de la force.
On n'est pas violents. On y va. On est sourire. On nous sourit.
Ça va? Vous savez bien.
Mais regardez-nous.
C'est vous dans les arbres.
C'est vous dans les arbres. Et c'est
avec nous. La police. Avec nous. La police.
En fait, c'est comme une renaissance chez elle.
Peut-être, oui, peut-être. Enfin, c'est peut-être.
Ils apprennent pas à pas tous. Hein, ils apprennent les.
Exactement. Ils se découvrent tous et ils découvrent. Enfin, il y avait des gens qui avaient un passé peut-être militant, mais finalement, le mouvement étant très très horizontal, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et donc, voilà, il y a un apprentissage accéléré et puis un espoir commun qui se crée.
Pardon de vous poser la question à vous, mais je devrais la poser plutôt à des politiques. Pourquoi ça n'a pas marché ?
Non, je pense qu'il y a plein de raisons. Peut-être aussi que on a souvent dit que le fait qu'il soit aussi démocratique, aussi peu hiérarchique, avait parfois, et qu'ils agrègent autant de sensibilités, peut-être leur a pas permis de dialoguer avec le pouvoir.
Ils vous en ont parlé, tout ça. Ils font des bilans.
Disons que. Je sais pas, j'ai jamais évoqué ça directement, les bilans ou ce qu'on aurait pu mieux faire. Disons qu'ils ont eu un espoir à un moment de vraiment faire bouger les choses. Et puis en fait, ce qu'ils demandaient pour beaucoup, c'était vraiment de la démocratie, quoi. Une demande de démocratie plus directe. Et en tout cas, évidemment, chez eux, il y a beaucoup d'amertume, même si l'imaginaire des Gilets jaunes et aussi certaines idées, notamment celles de démocratie directe et des référendums d'initiative directe, citoyennes, pardon,
ouais.
Sont restées un peu dans la société, dans notre inconscient collectif, quoi.
Donc
idées ont cheminé, quoi.
Ouais, vous avez pensé plutôt à l'intime, vous, ce couple qui va progressivement se détacher presque, parce que
moi, j'avais envie de raconter un grand amour qui est bousculé un peu par le tumulte de la société, quoi. Et c'est deux personnes qui s'aiment depuis 20 ans. Souvent, les histoires d'amour, c'est la rencontre. Là, c'est plus le grand engagement, quoi. La durée, les enfants. Enfants, retaper une baraque, tous ces combats du quotidien et un petit peu voilà ce suspense émotionnel qu'il y a dans le film de est-ce que ce couple, malgré tout son amour, va tenir, va réussir à concilier leur amour et leurs convictions.
C'est ça, c'est l'action collective ou poursuit sa route en solitaire. C'est un peu ça aussi le débat entre eux.
Ouais, c'est effectivement, c'est pas un débat idéologique. C'est, elle a quelque chose d'idéaliste, mais sans emphase. Elle se la raconte pas. Et lui, il a quelque chose de plus
débat économique aussi quand même entre eux. Sur le petit patron, il veut oui, continuer à travailler quoi.
Lui il est chauffeur routier et aussi petit patron. Oui, il a trois camions. Disons que lui il est pragmatique. Il est peut-être d'accord avec elle sur le fait qu'il y a de l'injustice dans la société, mais il se dit ça sert à rien. On ne changera, on n'arrivera pas à la changer la société. Il faut essayer de d'être fixé sur soi, sur sa route, faire grandir sa boîte et protéger notre famille.
En fait, tu y étais à la préfecture mardi. Quand il s'est fait courser. Hein.
Oui. Ah, non, mais en fait, c'est.
Non,
mais
ça va.
Ça s'est pas passé comme prévu.
Sais, en plus, je m'en doutais. Quand je l'ai eu au téléphone, je m'en doutais. Mais comme un con, je me disais, mais non, elle va pas me mentir.
Je suis désolée. En fait, on voulait profiter de sa présence pour lui parler.
Pour lui parler ? Ouais, c'est réussi. Fils de pute, c'est super pour ouvrir un dialogue. T'as mis un masque, quelque chose ?
Non.
Tu sais qu'il y a des caméras tout autour de la préfecture.
J'ai fait attention.
Ouais, t'en as parlé après sur ton groupe Facebook,
non.
Là, tes bisons, tes...
Non.
Non, t'en as pas parlé.
Bah non, j'en ai pas parlé.
T'es un égoïsme.
Jimmy, ce que je fais, je le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Je fais pour les gens d'ici qui sont dans la merde. Parce que nous, on est privilégiés. On a deux salaires, on a une maison...
T'as mais qu'à rénouver les yeux, quoi. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. On va être contents, les enfants, de revenir te voir au tribunal.
J'ai fait attention, je te dis. Les enfants, ils sont grands, ils peuvent sortir un peu de leur bulle, quoi. Ils peuvent comprendre des choses. C'est peut-être même bien qu'ils les comprennent.
Merde, je suis fatigué, je démarre à 4h, moi. Ouais, je vais dormir au camion.
Non, Jimmy, on est ensemble, on dort ensemble.
Thomas Krutoff, Jimmy parle de répression. C'est vrai que le mouvement a marqué le début, dites-vous, d'une nouvelle manière de maîtriser l'ordre.
Ouais, tout à fait. À partir de assez tôt dans le mouvement, mais peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième semaine, et notamment les incidents autour de l'Arc de Triomphe, voilà, il y a une répression policière et aussi judiciaire qu'on traverse un peu dans le film, voilà, qui a agi et naturellement qui vient frapper les militants, les gens du mouvement, et qui aussi, enfin, on le voit un petit peu dans cette scène, a une résonance, un dégât dans le couple, quoi, crée un enjeu qui crée aussi un peu plus une plus grande fissure entre eux.
Le titre hébraïque, très beau titre d'ailleurs, le charbon ardent, métaphoriquement, elles sont encore chaudes et prêtes à renaître.
Je crois qu'elles sont encore chaudes, ouais. Enfin, beaucoup des. En tout cas, c'était un titre qui, je pense, résonne autant pour la colère ou la tension sociale qu'a créé ce mouvement que pour la passion amoureuse, quoi. Mmh. C'est un entre-deux, entre quelque chose qui pourrait s'éteindre et quelque chose qui pourrait brûler plus fort que jamais.
Et les enfants, dans tout ça, comment le vivent-ils ? Quel avenir pour eux ? Une scène qui se rentrera en résonance avec le film, avec Blanche Gardin d'ailleurs, sur l'avenir. Donc elle est avec son fils et sa fille au supermarché.
Il y a des trucs toi dans ta classe, de blocage et tout ?
Ouais. Ce matin, SVT à 8h, ils sont venus faire leur discours.
Ok. Et c'était quoi leur revendication ?
Je sais pas, enfin, tout le monde n'arrêtait pas de se couper la parole, on comprenait rien. C'est un peu relou.
Bah, Anaïs, c'est aussi à toi d'un peu de t'intéresser aux choses, quoi. Le monde, c'est pas que le judo et les potes.
Maman, t'es sérieuse ?
Bah oui, si tu t'informes pas, c'est les autres qui vont décider pour toi. C'est important, ça, c'est à toi de bouger.
Alors quoi, tu veux que je fasse la révolution avec toi ?
Oui, pourquoi pas. Bah, c'est quoi pour toi une révolution ?
Je sais pas.
Non, mais allez, dis.
Vas-y, toi, parce que je vais me faire encore traiter de débile.
J'ai jamais dit ça.
Alors, c'est des gens qui partagent les mêmes intérêts, qui... C'est des hommes et des femmes qui se mettent en action et renversent le pouvoir.
Voilà.
Oui,
c'est intéressant, ça.
Ça, c'est vrai pour 1789, pour la Révolution russe. Oui. C'est aussi vrai pour Pétain.
Pétain,
oui. Pétain. Travail, famille, patrie, ils appelaient ça une révolution nationale.
D'accord, là, tu joues sur les mots, t'es chiant quand tu fais ça.
Ah, je suis chiant.
Non, mais moi, je vous parle pas de ça. Je parle qu'en ce moment, il y a des gens qui se battent pour qu'on ait une société qui soit plus juste, qui soit plus égalitaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui.
Oui.
Et que là, on a besoin de vous, là, des jeunes. OK ? Faut pas laisser le mouvement s'endormir. Faut repartir plus fort qu'avant Noël.
C'est bien cette scène, hein. C'est bien de poser la question, finalement, parce qu'eux, ils sont un peu spectateurs de ce qui se passe dans ce couple.
Ouais, complètement. Puis c'est aussi, enfin voilà, il y a, enfin voilà, c'est, enfin en tout cas, on a essayé de le faire avec simplicité, mais les enfants, elle se bat aussi pour ses enfants. C'est ça qui est beau aussi dans l'engagement militant. Et lui aussi se bat. Les enfants, c'est quand même ce qui nous relie à l'avenir, et donc ce qui nous relie à l'avenir, ça nous relie à la société, quoi. Donc c'est, voilà, c'est politique qu'à l'avenir on va leur laisser. Et c'est vrai que voilà, c'est des adolescents, ils sont pas loin de la rejoindre la société, et tu peux plus vraiment les mettre dans une boîte. Ils sont pas contrôlables. Quoi.
Enfin, votre film, sans être forcément un appel à la révolte, pourrait dire comme Stéphane Hessel, indignez-vous. C'est un peu ça l'idée ou pas? Vous aviez en sous-main.
Oh, je sais pas si c'était, il y avait pas de message ou une idée qu'on puisse réduire comme ça, bien sûr, mais c'est souvent les films nous aident peut-être à vivre d'autres vies, à mieux nous comprendre. C'était un peu peut-être traverser cette époque et ces choses qui nous concernent. Et puis non, j'avais aussi l'ambition de voilà de raconter une histoire d'amour qui tente de résister voilà dans ce monde, dans notre société, malgré ce lien très fort qu'ils ont, voilà, c'est un combat un peu de tous les jours, et on traverse un peu tout leur combat du quotidien, mais c'est des personnages qui sont capables de faire des grandes choses par amour, et des grandes choses aussi pour leurs idées.
Sans ne pas laisser les braises s'éteindre.
Oui, en tout cas les braises de leur couple. Oui.
Sans gilet jaune, on peut aussi, effectivement, un couple peut aussi se retrouver sur plein d'idées politiques, en fait.
Oui, bien
plus
sûr.
Généralement.
Plus généralement, mais même aussi plus généralement, un couple qui essaye de s'aimer dans la durée, voilà, il peut pas durer sans changement, quoi. Et évidemment, là, elle bouscule un petit peu les choses, et voilà, faut essayer de les surmonter pour continuer de s'aimer.
Les Braises est sorti mercredi. Allez-y, elle est indignée et dans les grandes largeurs.
Ah, Colline. Merde, ça va? Oh là là, t'es sûr que ça va, Colline? Oui.
Oui. Il est vrai que j'avais disparu depuis longtemps, mais je m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Je m'appelle Colline Morel, j'ai 46 ans, et bientôt je vais mourir.
Voilà, les présentations sont faites. Colline, c'est vous, Blanche Gardin, exploratrice du pôle Nord dans ce film L'incroyable femme des neiges de Sébastien Bette BD. Colline, en pleine débâcle, virée de son job, séparée de son homme, elle rentre dans le Jura, retrouver notamment son frère, Philippe Catherine, son ex, et ses origines. Vous dites, film hommage à ceux qui butent contre la normalité, qui n'arrivent pas à rentrer dans le rang. C'est un portrait de vous, ça?
Alors c'est un portrait de moi, mais j'ai l'impression que c'est surtout un portrait de l'époque et en fait de cette impossibilité d'appartenir. Voilà, j'écoutais voilà ce qui se disait sur les Braises, que je trouve d'ailleurs un titre magnifique parce que et puis j'ai pas eu la chance de voir encore le film, mais les Braises c'est aussi le feu de l'humanité autour duquel on n'est plus tout à fait capable de se rassembler. C'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose de un désamour du monde dans la culture occidentale notamment qui est très très fort, et je crois qu'en fait on en souffre tous terriblement, ce sentiment de vide et de voilà. D'amputation de la totalité de l'expérience humaine, en fait.
Blanche a la conscience de la fin du monde et de sa fin à elle aussi.
C'est drôle parce que vous venez de dire Blanche, alors qu'en fait c'est Colline.
Oui, Colline, pardon.
Oui,
c'est tellement vous.
Ouais. Et Colline, vous avez réfléchi à Colline. Enfin, c'est le prénom existait dans le scénario, Colline.
Ah, tout à fait. Ouais.
C'est un drôle de prénom quand même, hein, quand on y pense un peu. Une colline, je sais pas, faut la gravir, tout ça.
Il y a plein
de sens. Hein.
Ah oui, bien sûr. Non, mais Sébastien Bette BD est très très fort en fulgurance. Et puis après, on lui dit mais t'as vu qu'il y avait ça dans le film, t'as vu? Puis Sébastien, il fait ah non, j'avais pas vu. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement dans l'évocation, c'est jamais souligné, et il y a tout un tas de fils à tirer.
Elle les cache, elle est en accord avec elle-même, et le monde la prend un peu pour une folle.
Oui, le monde la prend pour une folle. Enfin, le monde, en tout cas, le monde intégré, conformiste, la prend pour une folle, parce qu'on n'a pas toujours envie d'écouter les gens qui hurlent des vérités.
Et en plus, elle hurle pas. Vous avez un phrasé très, vous êtes très calme dans le film, en fait.
Oui, il y a certains moments de petite folie.
Oui, petite folie, mais on va écouter. Mais sinon, elle est calme. Elle est en accord avec elle-même, en fait, non?
Oui et non, moi je crois qu'elle est, quand même voilà, en but à cette espèce de recherche de, oui. de sens qui est, je crois, assez
détresse, quand même,
tragique pour elle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle elle a beau partir, faire des traversées en solitaire d'épaule, je veux dire, en réalité, elle est cette espèce de symptôme, vraiment, je trouve, de notre culture moderne, où en fait on est chez nous nulle part, on est relié au monde vraiment nulle part. Et là, bon, il lui arrive quelque chose en plus. Ouais.
Mais c'est qui ce yéti en fait? Non, mais métaphorique qu'elle recherche. C'est une métaphore, en fait.
Oui, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, le kivitok, donc en fait, dans la culture inuit groenlandaise, c'est cet être qui, au départ, c'est quelqu'un qui part du village suite à une honte ou un bannissement ou quelque chose qui, voilà, qu'il a mal vécu. Et il part du village tout seul. Et en fait, en s'isolant du village et de la communauté, il devient moitié homme, moitié animal, et c'est une sorte de métaphore sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Être humain, c'est en fait être avec les autres. En fait, on ne peut pas être un humain tout seul.
Elle va, comme elle est assez cache, effectivement, elle parle à des enfants comme elle parlerait à des adultes. On l'écoute raconter sa rencontre avec l'ours à une classe de maternelle.
J'étais seule, c'était la nuit, j'avais planté ma tente, j'attendais que le marchand de sable passe, quand tout d'un coup, j'entends ce bruit. Je me dis, qu'est-ce que c'est? J'écoute un peu mieux. Je me dis, c'est un ours. Oh. Et là, je me souviens d'un secret que m'avait donné un copain danois qui m'avait dit, si tu rencontres un ours, il faut te bander le bras, te faire un bandage très très épais. Comme ça, si l'ours veut te mordre, tu donnes ton bras à l'ours, il mord dans les tissus et il n'y a pas de bobo. Je prends tout ce que j'ai dans la tente, les écharpes, les t-shirts, je me bande le bras comme ça. Je bondis hors de la tente, je fais face à l'ours, il se dresse sur ses deux pattes arrière et il ouvre grand sa gueule. Alors je lui présente mon bras comme ça, de la main droite, je prends mon poignard et je commence à le poignarder.
Colline,
dans le ventre d'abord. Et après dans le crâne. Chac, j'avais du sang partout.
Colline, s'il te plaît.
Jusqu'à ce qu'il cède, Colline.
Colline, arrête. Ça va être jouissif à jouer ça, non, Blanche Gardin?
Ah oui, c'est très très agréable. Bon, alors les enfants n'étaient pas présents au moment où je racontais tout ça. Hein.
Ah d'accord, oh, je suis déçue.
Aucun enfant n'a été maltraité sur le tournage.
Aucun.
Ni animal. Non mais au Groenland, qu'elle a quitté et qu'elle va retrouver, vous dites, l'invisible fait vraiment partie du voyage, c'est-à-dire...
Du paysage.
Du paysage, pardon.
Ouais, du paysage. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce sont des cultures où les arrière-mondes sont encore tout à fait présents. C'est-à-dire que les Inuits croient donc en l'existence de Silla. Silla, ça a plusieurs significations. C'est à la fois la météo, à la fois le souffle qui nous anime, hein, notre respiration, c'est l'âme, c'est notre âme à nous individuellement, mais c'est aussi l'âme du collectif. Et sont des animistes. Donc en fait, une fois qu'on meurt, une fois que le souffle a quitté le corps, et ben Silla rejoint, voilà, le grand Silla. Et ça peut, voilà, on peut partir dans un phoque, on peut partir un peu partout.
Ouais.
Et surtout, voilà, il y a un monde invisible
que vous avez ressenti là-bas en arrivant.
Ah, je franchement, oui, vraiment. Très très clairement. Je ne sais pas si c'est lié à la culture ou à la géographie ou au déplacement culturel extrême, hein, que c'est arrivé là-haut. Oui, on sent quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on a vécu, même quand on a eu la chance de voyager comme moi pas mal.
Oui.
Il y a quelque chose qui nous rappelle. Et encore une fois, voilà, c'est en ça que je trouve que c'est pas... Il n'y a rien de déprimant à dire qu'on est parti en vrille, nous, avec notre culture, parce qu'en fait, je crois que le chemin, on peut le retrouver. Et on peut tout à fait se remettre autour du feu et souffler sur les braises.
Qu'est-ce qu'ils font, eux?
Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, y a une force du collectif énorme, il y a un primat du collectif sur l'individuel, mais sans hiérarchie, en tout cas pas du tout apparemment visible ou désagréable à observer. Les femmes sont voilà, tout aussi importantes que les hommes. Ouais. D'ailleurs, la meilleure harponneuse de Narval, du village du Pernavic où on a tourné, c'est une femme.
C'est celle qui joue le médecin?
Oui.
Ouais.
Ouais. Et ben voilà, Anne-Maria, quand il y a des narvals au large, c'est elle qu'on l'appelle dans ce village de 2000 habitants pour aller harponner, parce que c'est la meilleure. Et en fait, ils sont tellement dans une situation adverse tous les jours, il n'y a pas plus adverse au monde, sur un territoire où il y a si peu de ressources, qu'ils sont dans une espèce de présent total, où il y a quelque chose à faire, et bien c'est la première personne qui peut le faire, qui le fait. Donc en fait, il n'y a pas de place pour la hiérarchie. Voilà.
Et du coup, un tournage doit paraître superficiel un peu pour eux. Comment ça se passe?
Eh bien non, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'à la fois, aucun des acteurs non professionnels inuits qui ont joué dans le film ne s'est raconté un truc, genre ça y est, c'est la chance de ma vie, etc. vraiment pas du
faut
tout.
Faut que je trouve un agent.
Oui, il faut que je trouve un agent, tout ça, qui peut toujours être le risque hein, quand on va, voilà, quand on prend, quand on travaille avec dans des endroits où c'est pas du tout. Et ben non, absolument pas. Je veux dire, ils sont chasseurs d'ours, ils sont tellement heureux de chasser des ours et de chasser des phoques en réalité. Il y a quelque chose qui. Enfin, c'est tellement. Ils sont tellement entiers à l'intérieur de leur culture, malgré voilà, beaucoup de violence coloniale, etc.
Ouais,
hein, mais ils sont tellement ancrés dedans qu'ils voient le tournage arriver comme une espèce de cadeaux en fait. J'écoutais une chamane groenlandaise inuite qui disait on ne survit pas dans l'Arctique sans la gratitude, et parce qu'en fait c'est un territoire qui a tellement peu de ressources que la moindre chose qui arrive, on n'a pas d'autre attitude possible que la gratitude, parce que voilà, ça arrive et on veut que ça continue d'arriver, donc on nourrit cette gratitude. Et les acteurs, c'est devenu des acteurs hyper sérieux, y compris le jeu au sérieux, ouais. Vraiment, et qui était très heureux de jouer.
Jamais vous n'avez mis autant de temps pour aller sur un plateau de tournage en même temps. Ça prenait du temps pour aller sur le tournage.
Ah oui, ça prenait du temps, oui, parce qu'il fallait quand même briser la glace avec des bateaux qui n'étaient pas des brise-glaces, donc qui étaient des bateaux de pêcheurs. Mmh. Il y avait une coque qui n'était pas du tout faite pour ça, hein, mais donc oui, on avait un petit peu de transport, ouais.
Garder concentration et énergie dans cette température-là, en plus. C'est aussi un film sur la famille, une famille complètement dysfonctionnelle, avec pas mal de conflits non réglés, d'ailleurs, avec ses deux frères, les parents qui sont plus là, les deux frères, deux drôles d'acteurs, d'ailleurs, Philippe Catherine et Bastien Bouillon, deux petits garçons, en fait. Et ce règlement de compte au bord d'un ravin.
Je peux plus bouger, là. Je peux plus. Mais vous savez que j'ai une vertige, vous le savez, quand même.
On le sait, mais avance, fais pas l'enfant.
Mais de toute façon, c'était ridicule, ce plan rando, là, colline. C'est quoi, c'est un pèlerinage que tu nous fais? On a toujours été bien gentils avec Lolo, hein. Il a toujours fallu faire exactement ce que tu veux. Depuis qu'on est gosse, tu nous imposes ta loi. Tout ça parce que papa t'a toujours protégé. Dis-lui, Lolo, que ça a toujours été sa préférée. Et pourtant, c'est toi qui nous a laissés. Hein, pendant que les parents partaient en sucette, ben on s'en a occupé. Et puis là, tu reviens, là, avec ton délire d'écrivaine, aventurière, mes couilles, là. Tu crois quoi? J'aurais pas aimé, moi aussi, me casser à 20 ans, essayer autre chose, avoir une autre vie. Tu crois que j'aurais pas aimé ça, moi aussi?
Calme-toi,
mais ta gueule, toi, Lolo. Oh, et plein le cul, la famille. Plein le cul.
Ça y est, ça va mieux?
Non, pas vraiment, non.
Philippe Catherine et vous, moi je dirais que c'est deux spécimens, c'est-à-dire que vous ne venez pas du monde du cinéma tous les deux, et vous êtes assez frais en fait.
Ah bah merci, je suis très heureuse de savoir qu'on est frais.
Non mais c'est vrai, c'est un jeu pur quoi, une approche, voilà, pure.
Alors, je peux pas parler à la place de Philippe s'il ressent la pureté de son propre jeu. Hein,
non, mais voilà, il y a pas d'école derrière, de voyez.
Non. Alors par contre, moi, pour la première fois, j'ai fait appel à une coach de jeu pour travailler le personnage, la personne de Kim Baruch que je remercie ici parce que j'ai vraiment appris énormément sur ce métier. J'ai déjà appris que c'était un métier parce que moi, avant, j'allais sur les plateaux et je me disais pourvu que ça se voit pas. Et bon, alors je savais que je disais à peu près les répliques justes parce que je pense que j'ai une petite oreille, mais sinon j'étais absolument incapable de comprendre ce que je foutais là, comment faire avec un personnage, etc. Et quand j'ai lu le scénario de Sébastien, je me suis dit que là il y avait une espèce de responsabilité, un truc important, et que je pouvais pas me retrouver à me demander, j'espère que ça se verra pas, une fois au Groenland.
Donc, c'est un peu loin.
Donc on peut pas vraiment se cacher sur la banquise. Hein. Donc du coup j'ai travaillé le personnage avec Kim.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a appris que vous ne sachiez déjà ?
Déjà elle m'a appris qu'on n'est pas obligé de ressentir vraiment ce que ressent le personnage.
Parce que jusqu'à présent vous tentiez de ressentir ?
Ben oui, je me disais qu'il fallait être vraiment dans la même émotion. Ouais. Donc si le personnage est triste, il fallait que je pense à des chatons morts. Mais non en fait. Pas du tout. Ce sont des techniques, voilà. Après on peut travailler un personnage, incarner un personnage, mais ça c'est à côté. Mais par ailleurs, il y a des techniques, voilà, il y a des techniques pour avoir l'air d'être malade, il y a des techniques pour, enfin tout ça, le corps en fait, le comment on fait avec le corps.
Faut pas en avoir trop de techniques non.
Non, sûrement pas. Oui,
faut garder un peu de blanche là-dedans, quoi. Il y a pas de.
Oui, ouais. Oui, bien sûr. Ouais.
Mais finalement, est-ce que le cinéma est pas un super beau porte-parole? Pour vous, notamment, presque plus fort qu'un spectacle. Vous voyez, vous arrivez, un film comme ça arrive à dire plein de choses sur le monde, sur la mort, sur vous. Vous voyez, c'est fort le cinéma quand même. Hein.
Bien sûr, alors je pense que vous prêchez pour votre chapelle, Madame Masson.
Oui.
Non, mais la scène aussi, il n'y a pas de plus ou moins en fait, je crois. Mais ouais. En tout cas, je découvre notamment avec ce film.
Avec ce film-là. Hein.
Qu'effectivement, il y a quelque chose de magique qui peut se transmettre au cinéma. Je dis souvent, dans la tournée des avant-premières, que. Pour moi, il y a vraiment une cousinade avec Sierat, que c'est Sierat avec des blagues.
Oui, j'ai entendu ça. Mais pourquoi ?
Mais parce que pour moi, le film raconte un peu la même chose.
Oui, la peur de la fin du. Ouais,
sauf
vrai.
Que voilà, Olivier Lachet passe par un autre chemin, qui est le chemin du choc frontal, et que Sébastien Betbédé passe par le chemin de la comédie et surtout par quelque chose de beaucoup plus doux et les angles plus voilà.
Notamment un dialogue extrêmement drôle entre deux Inuits sur le réchauffement de la planète. Il y a plein de petites doses d'humour comme ça. Madame Gardin, à l'affiche de ce film L'incroyable femme des neiges, de Sébastien Betbédé, avec aussi Philippe Catherine, bien sûr, et Bastien Bouillon dans le rôle de vos deux frères, Thomas Kruithof, Les Braises, ah, c'est marrant, La glace et Les Braises, qui est sorti... mercredi, vous restez allez-y avec aussi. Nous, on se retrouve après Bertrand Belin, ça tombe bien, La Béatitude.
Je me taille des costards, je me donne des noms d'oiseaux, sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude, faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler les sabres des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
France Inter, on aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par ce film signé du cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, Deux procureurs, Union soviétique 1937, la terreur stalinienne à son apogée. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. L'une d'entre elles arrive à destination sur le bureau du procureur local, fraîchement nommé Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d'agents de la police secrète, le NKVD. Bolchevique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le mènera assez loin. Démonstration implacable d'un parcours kafkaïen, mise en scène des espaces comme cette entrée en prison aux multiples portes et serrures, chemin de croix et un cadre qui se referme peu à peu sur cet idéaliste. Bref, description d'un totalitarisme, Laurent, forcément en miroir avec le régime actuel en Russie.
Oui, alors Losnitsa aussi, depuis toujours entre le documentaire et la fiction, pour parler soit du présent, soit du passé. Ici, c'est la fiction, mais très inspirée du réel, très documentée, qui revient sur les années, effectivement, des purges staliniennes et autres joyeusetés dans l'URSS des années 30. Format carré, chromatisme qui recherche les 50 nuances de gris et les 50 nuances de marron. Ça ne dépasse pas ce nuancier-là, mais c'est extrêmement réussi de ce point de vue-là aussi. Avec un étouffant entêtement dans les lieux, notamment une prison, un bureau, une salle d'attente, un compartiment. Le film se réduit, si on peut dire, à ça. Et ça devient à chaque fois les lieux de privation de liberté. Losnitsa ne se livre à aucun anachronisme, mais il faut porter ça à son crédit, parce qu'il sait trop bien que parler du passé, c'est convoquer le présent.
Avec cet incroyable acteur qui s'appelle Alexander Kuznetsov, lisez son portrait dans Télérama cette semaine. Sa vie est absolument dingue, c'est une vie de fuite perpétuelle. Le cinquième plan de La Jetée de Dominique Cabrera, le cousin de la réalisatrice Jean-Henri, se reconnaît dans La Jetée de Chris Marker. Il est là, de dos, avec ses parents, sur la terrasse d'Orly. Dans le cinquième plan du film, aucun doute, il reconnaît ses oreilles décollées. Dominique Cabrera est immédiatement happé par cette enquête intime et historique. Quelle était la probabilité que les Marker et les Cabrera choisissent ce même dimanche de 62 pour se rendre à Orly? Ou comment relier Laurent et ce film culte et l'histoire de sa famille, celle des rapatriés d'Algérie, à la fois, comme Cabrera le dit en voix off, doc et fiction, les deux puissances du cinéma.
Oui, c'est d'abord un très beau et très mystérieux titre, hein, le cinquième plan de La Jetée, on le découvre progressivement dans le film. Alors ça aurait pu être une petite anecdote familiale, cinéphile, un petit film de famille dans l'entre-soi anecdotique. Eh ben non, Cabrera dépasse largement ce cadre un petit peu étroit, elle élargit son objectif de cinéaste, elle plonge et nous plonge dans la mémoire et les fantômes du cinéma si essentiel de Chris Marker. Elle noue et elle renoue les fils de l'histoire avec un grand H et des histoires avec des petits H. En cinéaste archéologue, Cabrera nous émerveille aussi bien qu'en cinéaste glaneuse, comme si derrière chaque image se cache manifestement une émotion.
La vague de Sébastien Lelio, inspirée d'événements réels, printemps 2018, une vague de manifestations déferle sur le Chili. Julia, une étudiante en musique, rejoint le mouvement de son université pour dénoncer le harcèlement et les abus subis par les élèves depuis trop longtemps. Alors qu'elle trouve le courage de partager avec les étudiants un souvenir qui la hante, elle devient de manière inattendue une figure centrale du mouvement. C'est une comédie musicale et féministe. Sur le fond, le débat est plus que nécessaire. Sur la forme, surenchère de bruit. Le slogan « ressasser » qui finissent un peu par tuer le message quand même, Laurent.
Oui, moi, ça a suscité un certain malaise, au fond, ce film, ouais. Parce que le malaise provient notamment de la récupération quand même assez calibrée de ce quasi-hollywoodienne, j'ai trouvé, des moments féministes qui ont embrasé effectivement les facultés chiliennes en 2018, hein, c'est une histoire vraie. Malaise aussi par la façon dont cette étudiante est montrée et la lourdeur de la métaphore qui l'accompagne au long de ce film, c'est une voix, parce que le film est très musical, qui trouve sa voix. Franchement, on aurait aimé un peu plus de subtilité. Et puis, le détournement du succès de ces chansons contestataires. On a l'impression, bizarrement, et là, c'est définitivement le malaise, que Lelio manque profondément de sincérité.
Aïe. Duel à Monte Carlo del Norte de Bill Clinton, l'Américain grand animateur et très indépendant. L'histoire de Slide, un cow-boy solitaire armé de sa seule guitare qui arrive dans une ville forestière gangrénée par la corruption. Le maire et son frère jumeau y sèment la terreur. C'est l'univers dingue, déjanté de Clinton qui explore cette fois le western musical et cartonne l'ultralibéralisme à l'américaine. Tout paraît excessif chez lui, déformé, mais en fait, c'est pas très loin de la réalité.
Ouais, attention, c'est un alcool fort, décapant, détonnant, râpeux et totalement barré. Le nouveau film de Bill Clinton, effectivement, tient absolument toutes ses promesses, et bien au-delà, porté par la musique, le récit aussi entre Mel Brooks, hein, tendance le shérif est en prison, et les westerns les plus glauques et les plus crépusculaires des derniers temps. Il balaye et il embarque tous les clichés, le pauvre cow-boy solitaire, mais juste et au grand cœur, la chanteuse de saloon et autres bandits. Bref, Clinton invente et réinvente le western pop et psychédélique, servi par un dessin qui est faussement un gribouillis, mais qui est absolument poétique.
Ouais. T'as pas changé, Jérôme Commandeur. Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. 30 ans plus tard, la force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit, dit le synopsis. Un film ni bienveillant, ni méchant, entre deux. Commandeur n'a pas su choisir son camp, pas drôle non plus, enfin tel qu'on le connaît, lui. Et sinon, on a envie de lui dire, mais c'était quoi ton plan de montage? Tu peux pas aller ranger ta chambre un peu, et ce malgré un casting 3 étoiles, Paradis, Lafitte et Damien, plus Commandeur. Voilà. Et puis l'inconnu de la Grande Arche, on l'a reçu, oui. Stéphane de Mousty, notamment la semaine dernière. On appelle ça un destin, celui de cet architecte danois.
Dingue.
Johan Otto von Spreckelsen, gagnant du concours d'architecture de la Grande Arche de la Défense et des illusions face au pouvoir politique et à celui de l'argent. C'est une passionnante enquête à la fois drôle et tragique.
Vous ne regarderez plus la Grande Arche?
Non.
Bah bon.
Une rétrospective Patrice Chéreau, Laurent.
Bah oui, on est heureux de revoir les films de Chéreau sur grand écran, et notamment, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est pas forcément le plus connu, c'est Julie de Terpauve avec Simone Signoret. C'est un très très beau portrait d'une ancienne résistante devenue patronne de presse.
Guitry encore et toujours.
Guitry encore et toujours, honoré par une très très grande rétrospective à la Cinémathèque, une intégrale, et puis en salle, beaucoup de films à voir et à revoir. Guitry, c'est quand même le maître.
Comme Désiré, Quadrille, Le Manibrand, De Bureau.
Non, mais 5 minutes de Guitry, ça vaut parfois 3 heures de beaucoup d'autres gens.
Deux festivals.
Enfin, un anniversaire. On dit bon anniversaire à la Cinéthèque, parce qu'elle fête ses 10 ans, la Cinéthèque. C'est une formidable plateforme qui permet à des cinéastes de dire voilà les films qu'on aime et à les proposer au public. Donc c'est extrêmement généreux, extrêmement cinéphile. En ce moment, il y a une offre d'abonnement en plus à 33 euros par an, c'est pas cher du tout pour voir autant de films. Et les 14, 15 et 16 novembre, au Méliès, à Montreuil, eh bien, on aura des cartes blanches. New York, Miami par Jacques Audiard, The Host par Pascal Ferrand, Palombé La Rossa par Bertrand Bonello. Bref, oui, bon programme, et je n'en donne qu'un aperçu.
Et c'est tout ce qu'il y a en festival.
Non, il y a Ciné Banlieue qui fête ses 20 ans jusqu'au 14 novembre avec 4 cinémas, la Cité du Cinéma, l'écran Saint-Denis, le Méliès à Montreuil à nouveau, il est partout, l'UGC Ciné-Cité Paris 19e, avec des invités, 10 longs métrages, 7 avant-premières, 76 courts et moyens métrages, imaginez-vous. Et ça s'appelle L'amour existe, bel hommage à Maurice Piala.
Ouais. Maintenant les cadeaux, on a un petit peu de temps.
Eh ben c'est bien, c'est très bien, on va les donner lentement. Blanche Gardin ou Colline, je ne sais pas, vous qui êtes à la recherche du Yeti, ben on vous offre Moby Dick de John Huston. Hein, lui, il est à la recherche d'une grosse baleine. Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à ça.
Avec Gregory Peck.
C'est une très avec Gregory Peck, 1956, John Huston, très très beau Blu-ray chez BQHL, avec des bonus, un livret de 28 pages. J'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que c'est en fait l'adaptation est signée Ray Bradbury, donc ça, c'est quand même assez talentueux. Très très beau film d'après, évidemment, Melville, très beau film d'aventure, très beau rôle pour Gregory Peck, et on est très heureux de vous l'offrir dans la droite lignée du Yeti. Voilà, c'est pour ça.
Comment il s'appelle le Yeti déjà ?
Le Kivitok.
Voilà. C'est pas inventé ça comme nom ?
Pas du tout.
Ouais.
Il y a même eu un film de 1930 qui s'appelle Le Kivitok.
Mais non !
Mais si.
Ah bah on aurait dû vous le
dire. Il y a une espèce de King Kong groenlandais, quoi.
Ah oui.
Thomas Krutoff, pour vous, toujours chez BQHL. Alors là, c'est une découverte. Voilà, moi, j'avoue, je ne connaissais pas ce film. C'est La femme de paille, 1964, de Basil Dardenne, avec, s'il vous plaît, Sean Connery et Gina Lollobrigida. Déjà, je trouve que l'alliance de 007 avec Notre-Dame de Paris, Esmeralda, c'est quand même costaud. Et ça tient la route parce que c'est un super thriller, suspense, un peu à la Hitchcock, un peu à la Boileau et Narcejac. Il y a un très beau bonus développé par Jean-Olé Laprune, on est heureux de vous offrir ce Blu-ray aussi.
Merci
voilà.
Beaucoup, très curieux de regarder.
Mais oui,
ça.
C'est une curiosité et on aime en découvrir par le biais des Blu-ray et des DVD.
Voilà, et on va dire que c'est bientôt, ben c'est presque fini. Thomas Krutoff, depuis mercredi, votre film Les Braises avec Virginie Efira et Arié Vorthalter, qui est un super acteur.
Ouais.
Et bien sûr, L'incroyable femme des neiges, pas mal comme titre aussi. Ça.
Ah ouais. Ouais,
magnifique.
C'est bien de se dire que j'étais dans ce film. Un film qui s'appelle L'incroyable femme des neiges, quand même, Blanche Gardin. C'est un film réalisé par Sébastien Bedbédich. Merci à notre équipe. Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation et Olivier Rioux à la programmation musicale.
Merci à eux.
Au revoir.
Salut.
C'était On aura tout vu sur France Inter.